Chapitre 9. Peut-être trouves-tu, lecteur, que je m'attarde à ces souvenirs de notre enfance. Il faut cependant que tu te résignes à en parcourir encore avec moi le mélancolique domaine. C'est le seul moyen pour toi de connaître dans quelles circonstances sont écloses la vocation littéraire de mon frère et la mienne. Ces circonstances nous étaient toutes défavorables. Nous n'entendions jamais faire allusion aux choses d'art ou de littérature. La politique, des récits du passé, les mille incidents de notre existence, les affaires, les projets auxquels elles donnaient lieu, les soucis qu'elles engendraient, formaient le sujet ordinaire de nos entretiens de famille. Ma mère gardait pour elle les impressions de ses lectures, comme si elle n'eût osé nous faire l'aveu du plaisir qu'elle leur devait, l'unique plaisir qu'au milieu de ses maux, il lui fut donné de goûter. Ce n'est donc pas le milieu où nous avons vécu enfants qui a déterminé notre vocation. Il ne pouvait même qu'en comprimer les manifestations précoces et accidentelles. Mais il est probable que l'influence de ce milieu a été combattue et dominée par l'influence d'une mystérieuse hérédité. Il est probable que nous tenions de quelqu'un de nos grands-parents, Reynaud ou Daudet, cette soif de sensations intellectuelles, ce besoin de les exprimer par la plume qui nous était commun, que mon frère avait reçu de là ce don d'observation qui caractérise son talent, la délicatesse, la sensibilité, cet art d'écrire, de donner à sa plume la puissance du pinceau. Ce trésor fécond, dont il a eu la pleine possession le jour même où, pour la première fois, il a fait acte d'écrivain, quelqu'un de ceux de qui nous descendons l'a-t-il possédé de même dans le passé ? S'est-il formé, au contraire, par les apports partiels et successifs de plusieurs d'entre eux ? Je l'ignore. Ce qui est indéniable, c'est que les qualités que nul ne songe à contester à Alphonse Daudet, il les a eues tout à coup, en une fois, comme si, par une chance heureuse, il les avait trouvées dans les dentelles de son berceau. Développées plus tard par un labeur incessant, acharné, elles sont déjà dans les œuvres de sa jeunesse, avec moins de grandeur sans doute que dans celles de sa virilité. Mais elles y sont, elles existent, même dans l'unique roman de lui qui n'ait jamais été publié, il avait 15 ans quand il écrivit, et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. La vie de collège ne nous ouvrit pas des perspectives plus souriantes que celles qui, jusqu'à ce jour, avaient borné notre horizon. Ce qui me frappa d'abord à mon arrivée au collège, a écrit le petit chose, c'est que j'étais seul avec une blouse. À Lyon, les filles riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue, les gones, comme on dit. Moi, j'en avais une petite blouse à carreaux qui datait de la fabrique. J'avais une blouse, j'avais l'air d'un gône. Ce fut bien là notre première sensation, notre premier supplice, en entrant dans la vaste cour du lycée, telle que nous étions arrivés de notre midi, vêtus comme étaient alors vêtus à Nîmes, ville un peu arriérée, les enfants de notre âge et de notre condition. Nous fûmes classés tout de suite parmi les pauvres diables dont les parents se saignent aux quatre veines pour payer les frais de leurs études. Les plus élégants de nos camarades dédaignèrent de frayer avec les nouveaux venus, affectèrent envers nous des airs hautains ou protecteurs. Un peu plus tard, on nous donna des costumes moins humiliants. Mais l'effet avait été produit et l'impression resta. Mon frère la combattit victorieusement en gagnant pour ses débuts les premières places. Et dès ce moment, il fut un des plus brillants élèves du lycée. Un singulier élève, par exemple. Au bout de quelques mois, l'école buissonnière était devenue pour lui une habitude. Nous avions 10 classes par semaine. Il était bien rare qu'il n'en manquât pas 5 ou 6. Et cela dura plusieurs années. Il en vint à ne paraître au lycée qu'au jour de composition. Ce qui ne l'empêchait pas d'être toujours classé parmi les premiers, surtout au fur et à mesure qu'il avança vers les hautes études. Son intelligence émerveillait ses professeurs. Dès la troisième, il traitait en vers les sujets de discours français. Un jour même, il fut mis hors concours avec éloge. Son professeur ayant demandé une apologie d'Homère, il lui remit, au bout de 2 heures, une ode qui fut un événement. En voici la conclusion, j'ai oublié le reste. Et dans 4000 ans, au milieu des tombeaux et des peuples croulants, comme un sphinx endormi, colosse fait de pierre, tu pourras soulever lentement ta paupière, regarder le chaos et dire avec orgueil « Au vieil Homère, il faut un monde pour cercueil. » L'année suivante, il s'essayait dans un autre genre. Rito, beau capitaine au service du doge, était un guéluron, l'œil bleu, le poil blondin, qui lorgnait gentiment une belle en saloge et qui portait toujours des gants en peau de daim. Maintes fois, il avait tiré l'épée et même il avait fait, dit-on, gras pendant le carême. Dieu sait si les maris le redoutaient. Rito leur rendait fort souvent visite incognito. Je crois bien que ce poème, dont le début fut écrit pendant la classe en scénographie pour le dérober au professeur, n'a jamais été achevé. Je ne peux encore m'expliquer comment, étant donné l'existence désordonnée que mon frère menait alors, il a pu franchir avec tant d'éclat les étapes de ses études. À de fréquents intervalles, un avis imprimé, signé du censeur, était déposé chez notre portier à l'effet d'avertir M. Vincent Daudet que l'élève Alphonse Daudet, son fils, n'avait pas paru à la classe de tel jour. Grâce à mes précautions, ces avis m'étaient fidèlement remis. J'en atténuais les effets par des excuses bien senties que je signais audacieusement du nom de notre père. En ai-je rédigé de ces excuses en ce temps-là, afin d'éviter à mon frère des reproches mérités. Ces reproches, j'essayais d'y suppléer par quelques timides conseils auxquels il répondait en me promettant de ne plus recommencer. Le malheur, c'est qu'il recommençait toujours. Il était pris dans l'engrenage d'une vie toute dehors, quasi sans surveillance et sans entrave. C'était des parties de canot sur la Saône, des fugues dans les vertes campagnes qui environnent Lyon, des haltes au cabaret, que sais-je encore ? Mille aventures propres à révéler son extraordinaire précocité. Inconsciemment, il récoltait là les ineffables impressions à l'aide desquelles il devait écrire plus tard des récits d'un vécu si pénétrant. Il nous revenait, moulu, pâle, les traits tirés, ivre de fatigue, de grand air, les yeux pleins de visions d'eau tourbillonnantes dans le brouillard du matin. Comme il rentrait toujours en retard, je veillais anxieusement du côté de la porte, guettant son retour pour la lui ouvrir sans bruit, pour l'aider à fournir une explication à nos parents. Dès qu'il apparaissait, je l'avertissais à demi-voix de l'effet produit sur eux par son absence. Ils savaient ainsi s'ils en étaient irrités ou si elle avait passé inaperçue, et nos improvisions à la hâte, selon la gravité des cas, un prétexte acceptable. Un jour, il arriva fiévreux, chancelant, le regard troublé. On lui avait fait boire de l'absinthe. Terrifié, je l'adossai au mur de l'antichambre. Les yeux dans les yeux, je lui dis « Prends garde, papa est là !» Il parvint à se dominer et fit bonne contenance devant nos parents. Il allégua, pour justifier sa rentrée tardive, qu'il avait été retenu au lycée par la visite d'un inspecteur général de l'université. « Mais tu dois mourir de faim, mon pauvre enfant !» lui dit ma mère. Mon père, attendri, observa qu'on faisait trop travailler ces jeunes gens. Pendant ce temps, vite, nous dressions un couvert sur un coin de la table et, quoique écœuré, malade, n'en pouvant plus, le pauvre garçon dut feindre un appétit vorace, manger et boire tout ce qu'on lui servit, tandis que nos parents, assis à son côté, le regardaient d'un air de pitié et pillaient ses mouvements avec sollicitude. Jeté, ayant 13 ans à peine, dans une telle vie, avec des enfants de son âge dont l'influence et l'exemple l'entraînaient, comment n'y a-t-il pas laissé ses belles qualités intellectuelles et morales, la vivacité de son intelligence, la fraîcheur de son âme, la délicatesse de son esprit, sa droiture native, la fleur de son honnêteté? Presque tous les autres s'y seraient perdus. Pour lui, l'épreuve que, d'ailleurs, je ne conseillerais à aucun père de tenter pour son fils a donné des résultats contraires à ceux qu'il était logique de redouter. Le même phénomène s'est encore reproduit quelques années plus tard, lorsqu'à 17 ans, libre et sans frein sur le pavé de Paris, il est descendu dans tous les antres de la Bohème, parmi les paresseux et les impuissants, vagabonds de l'art dont tout l'effort consiste à grossir leur nombre pour trouver chez autrui la justification de leur propre honte, bon tout au plus à calomnier le talent consciencieux et fécond, à se venger sur lui en plates injures, des humiliations que leur vaut un incurable besoin de se vautrer dans une abjecte oisiveté. Par deux fois, cette expérience, pour mon frère, a donné les mêmes fruits. De ce qu'il y avait de bon en lui, il n'est rien resté aux ronces des dangereuses routes qu'il parcourait. Il n'est même pas téméraire d'affirmer que, dans une large mesure, son talent a profité de ses découvertes et de ses sensations. Elles en ont hâté l'éclosion. Loin de l'émousser, elles l'ont affiné, sensibilisé, jusqu'à lui donner la nervosité d'une corde de violon. C'est en se reportant à ces années de misère désespérée, d'escapades périlleuses, de distractions maladives, revues, ainsi que dans un miroir, à travers le temps disparu, qu'il placera plus tard comme épigraphe, en tête de l'un de ses livres, cette phrase de Madame de Sévigné. « C'est un de mes mots que les souvenirs que me donnent les lieux. J'en suis frappé au-delà de la raison. » Il exprimera ainsi la douloureuse impressionnabilité à laquelle il a dû de conserver, robustement imprimés en lui, les moindres épisodes de son passé d'enfant, les plus tristes, plus vivants encore que les autres. De ceux qu'il a victorieusement affronté tant d'expériences redoutables, on aurait tort de conclure que les incidents de sa vie à la diable me laissaient sans appréhension. À côté de l'angoisse de l'attente qui s'emparait de moi quand il ne revenait pas à l'heure de la sortie du lycée, il y avait la crainte des accidents. Il était si téméraire, si dédaigneux du danger, puis sa myopie aggravait les risques. Plus d'une fois, il lui arriva de jeter son canot sous les roues d'un bateau à vapeur, et comme au retour, j'étais le confident de ses émotions, au moindre retard, je le voyais toujours précipité dans cette saône maudite dont le lit, à travers Lyon, a tout le mouvement d'une rue populeuse. C'était aussi la peur des voitures, des coups reçus dans quelques querelles. Ah, les tristes heures! En l'apercevant, j'oubliais tout. Pourvu que nos parents ignorassent la vérité, je ne songeais qu'au bonheur de le retrouver sain et sauf. Je n'avais même pas le courage de le gronder. Si péniblement monotone était notre existence, que je comprenais qu'il cherchât au dehors des distractions. Il est vrai qu'elle tournait quelquefois en véritable gaminerie. Il y avait parmi nos camarades un garçon bien élevé, d'un caractère un peu faible, qui se laissait entraîner comme lui dans les équipées que je viens de raconter. C'était le fils d'un honorable avoué de Lyon. Il nous était sympathique à tous, et depuis, il a fait bravement son chemin dans le monde, sans que le souvenir des misères dont, enfant, il avait été victime ait laissé aucune amertume dans son cœur, mais à cette époque, une taille qui n'en finissait pas, un long nez, de gros yeux ronds, un défaut de prononciation et en même temps sa naïveté, en faisait un objet d'impitoyable raillerie pour ceux dont il était devenu le compagnon. Participant à toutes leurs fredaines, il était rare qu'il n'en portât pas seul la responsabilité. Après une escapade trop bruyante pour que les parents n'en eussent pas un écho, fallait-il trouver un coupable, c'est lui qu'on accusait, ou pour mieux dire, qui s'accusait inconsciemment sans le vouloir. Quand les circonstances innocentaient tous les autres, elles tournaient contre lui. Quand tout s'échappait, lui seul se faisait prendre. Puis ce fut bien pis. Ses camarades organisèrent une véritable conspiration contre son père et trouvèrent plaisant de l'y associer. Décidément, cet âge est sans pitié. Un matin, l'honorable avoué vit arriver dans sa cuisine, située sur le même palier que son étude, une longue procession de petits marmitons, apportant chacun un vol au vent. Les uns venaient du voisinage, les autres des quartiers excentriques. Ils se heurtaient dans l'escalier, se bousculaient, s'injuriaient, surpris de s'y trouver si nombreux. La cuisinière avait accepté le premier vol au vent, bien qu'elle ne l'eût pas commandé, puis deux, puis trois, mais devant ce débordement de veste blanche, elle alla quérir son maître. On voit la scène. À cette époque, nous avions quitté l'appartement de la rue Lafont à cause de l'excessive cherté du loyer. Nous habitions au deuxième étage d'une vieille maison de la rue Pas Étroit, une rue mal pavée, débouchant sur les quais du Rhône, au long de laquelle le lycée élevait ses murailles noirâtres en nous enlevant la lumière. L'escalier était obscur et humide. Toutes les fois que le fleuve débordait, il arrivait dans notre rue, envahissait nos marches à une hauteur de plus d'un mètre. Pendant trois jours, nous ne pouvions plus sortir de chez nous qu'en bateau. La façade de la maison gardait, dans sa partie basse, la trace de ces inondations fréquentes. Nous en eûmes deux en trois ans. La porte d'entrée était couverte de moisissures, l'allée avait des tons verdâtres, les plâtres s'effritaient partout. C'était bien une maison faite pour de pauvres gens, malheureux comme nous l'étions alors. L'appartement était décent, spacieux et commode, mais le propriétaire le louait à bas prix à cause de la physionomie lamentable de l'immeuble. C'est là que nous logions quand éclata le coup d'État. Nous étions trop jeunes pour prévoir toutes les conséquences de l'événement. Nous ne le jugeâmes qu'au point de vue des distractions qu'il nous apportait. La foule s'attroupait autour des affiches blanches contenant les proclamations et les décrets du prince-président. En général, elle se montrait sobre de réflexion. L'heure n'était pas bonne pour les critiques. Le maréchal de Castellane, qui commandait à Lyon, avait mis la ville en état de siège. De nombreuses arrestations avaient été opérées. Les troupes campaient dans les rues, devant de grands feux, le long des quais du Rhône. À la tête des ponts, les canons étaient dressés en batterie. On attendait de ce côté une armée de voraces arrivant de Suisse. On s'apprêtait à les combattre. La saison était déjà rigoureuse. Les soldats grelottaient, la nuit venue, autour de leur bivouac. Et comme, après tout, la population voyait en eux des défenseurs contre les dangers qu'on nous annonçait, elle les traitait en amis, s'ingéniait pour ajouter quelques douceurs à leur ordinaire. Chez nous, on prépara tout exprès pour le détachement de chasseurs de Vincennes qui campait devant la passerelle du collège, un gigot aux haricots que nous allâmes fièrement lui porter, Alphonse et moi, avec quelques bouteilles de vin qui fut reçu avec une joyeuse reconnaissance. Le coup d'État fut pour notre père une rude déconvenue. Jusqu'à ce moment, il caressait l'espérance du prochain retour du roi. Peu de temps avant, appelé à Paris par ses affaires, il avait été présenté au chef du parti royaliste. L'un d'eux, investi des pouvoirs de Monseigneur, avait gravement recueilli sur ses tablettes le nom de Vincent Daudet, celui de ses fils, lui promettant en récompense de sa longue fidélité une position pour lui et pour eux quand aurait sonné l'heure des légitimes revendications. Un peu plus tard, un souvenir nous était arrivé de Frohsdorff. Sur une feuille de papier blanc, un cachet à la cire rouge, formé de trois fleurs de lys, avec ses mots en exergue, « Fides, spes », et, au-dessous, cette simple mention, « Donnée à Monsieur Daudet, Henri ». Il fallut renoncer au brillant avenir que permettait d'attendre tant de promesses. Un matin, dans le courrier, nous trouvâmes une protestation autographiée du comte de Chambord, qui commençait ainsi. « Français, on vous trompe !» Je la lus, d'une voix frémissante, à mon père encore au lit. Ma mère versa quelques larmes, larmes stériles. Nous avions franchi le seuil de l'Empire.